pour investir, le placement à suivre.
Avec Pierre-Marie de Fortville d'Ivesta, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors avec vous, on va faire un point sur le marché du private equity. Parce que c'est vrai que depuis quelques mois, on a eu énormément d'initiatives à ce sujet pour faire rentrer le private equity dans le portefeuille de tout un chacun, parce qu'il y a du rendement. Alors au prix d'une liquidité qui est immobilisée pendant des périodes extrêmement variables, mais en nous vendant ça comme finalement peut-être beaucoup plus performant que la bourse, les marchés monétaires, que ceci, que cela. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un petit peu d'un doux rêve et de revenir un petit peu à la réalité là aussi, sur le private equity?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une période assez schizophrénique pour les investisseurs, puisque nous avons aujourd'hui le private equity, qui était une classe d'actifs très institutionnelle, qui a connu une hypercroissance depuis 20 ans, puisque les actifs du private equity sont passés à peu près de 1500 milliards de dollars à aujourd'hui à peu près 15 000 milliards de dollars. Donc c'est une classe d'actifs qui a fait x10 en taille en 20 ans, avec des croissances assez fortes, des performances largement supérieures évidemment à la bourse. Et là, depuis 3-4 ans, à l'heure où le private equity commence à infuser dans le marché retail auprès de ses investisseurs privés. Nous, qu'on a commencé le private equity il y a 10 ans, c'était un marché très institutionnel. Le simple fait d'avoir accès était un avantage comparatif. Aujourd'hui, on en trouve à chaque coin de rue. Il y a même plus de fonds de private equity que de McDonald's aux États-Unis, puisqu'il y en a 18 000 fonds de private equity aux États-Unis contre 16 000 McDonald's, pour la petite anecdote.
C'est un chiffre qui parle, hein, toujours.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, la bourse, le MSCI World surperforme le private equity sur cette séquence de 3 ans. Donc on pense qu'on est chez Ivesta dans une période vraiment de transition. On entre dans un cycle 2 du private equity, dans une certaine maturité. Le private equity vit un peu sa crise d'adolescence. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas linéaire. Et des doutes, évidemment, surgissent. Mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Surtout pas, d'autant que, encore une fois, le private equity, c'est du temps long. C'est de l'investissement long. On a vu qu'il y avait énormément de problématiques issues du dynamisme de certains secteurs économiques qui avaient animé le marché. On pense au secteur de la défense, le fonds de BPI France, on n'en parle même pas, mais c'est vraiment investir dans le concret, dans le tissu industriel. Il y a également tout ce qui est infrastructure, qui est une dynamique de développement très intéressante. Est-ce que vous pensez que la maturité de ce marché du private equity peut passer aussi par se consacrer au secteur dont on a le plus besoin et qui bénéficie des meilleures perspectives de croissance? Bref, être plus sélectif.
Oui, tout à fait. Alors, être beaucoup plus sélectif sur... notamment sur les performances passées. Beaucoup de gens, évidemment, pour investir, se basent sur les performances passées. Le monde du retail, les distributeurs dans le monde du retail l'ont bien compris et vendent les performances extraordinaires des performances passées. Ouais. Pour autant, à performance égale, les facteurs de performance ne sont pas les mêmes. Et certains, on pense, ne sont pas reproductibles. Vous prenez par exemple, pas tous, mais beaucoup de fonds large cap qui investissent sur les grosses sociétés. Quand on regarde leur performance, ça a été principalement lié à l'accroissement des multiples. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des sociétés 7, 8 fois les EBITDA, qu'ils ont vendu 12, 13 fois les EBITDA, toutes choses égales par ailleurs, et au levier financier. Donc c'était surtout des performances liées à de l'ingénierie financière ou à des facteurs exogènes financiers. A contrario, il y a d'autres fonds qui vont faire peut-être une performance un peu moindre ou équivalente, mais qui génèrent leur performance de par la croissance opérationnelle des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Ceux-là, on pense, seront plus reproductibles. Et après, sur les thématiques infra, défense, etc., oui, bien sûr, ce sont des secteurs porteurs, mais attention justement à la concentration sectorielle, puisqu'on voit bien aujourd'hui, justement, avec la concentration de certains fonds sur les boîtes de logiciels de SaaS, que ça peut aussi se retourner et que la martingale n'est pas structurelle.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi un petit vent frais qui est en train de souffler avec un wording qui clignote avec marqué « dette privée américaine » qui pourrait refroidir un petit peu les investisseurs sur ce marché du private equity?
Oui, bah tout à fait. C'est vrai que ces événements qu'il y a ces événements de d'illiquidité en fait qu'il y a sur la dette privée américaine dans un marché assez retail où on a promis la liquidité sur des sous-jacents illiquides, ça c'est pour moi typiquement l'erreur que font beaucoup d'investisseurs en s'imaginant en ayant l'illusion de pouvoir investir sur des actifs illiquides tout en bénéficiant de liquidité. Et on voit bien les travers que ça cause. Et quand le marché, là où il faut patienter et être patient sur du capital long et qu'on veut retirer sa liquidité, ça crée des crises de liquidité qui accroissent la crise sous-jacente elle-même.
Bon, Au-delà de toutes ces problématiques de dynamisme sectoriel, peut-être de facteurs exogènes qui peuvent perturber un petit peu le marché, quand on veut s'intéresser au private equity et en mettre dans son portefeuille, comment on sélectionne un fonds ? Quels sont les paramètres à regarder en priorité ?
Bah vraiment, le paramètre principal à regarder, c'est se faire une conviction sur la reproductibilité de la performance passée. Et donc, comme j'expliquais juste avant, c'est la vraie question, c'est comment a été constituée cette performance passée ? Est-ce qu'elle a été constituée par de l'ingénierie financière ou est-ce qu'elle a été constituée par de la croissance opérationnelle des sociétés sous-jacentes, donc de la croissance de chiffre d'affaires et de EBITDA très concrètement.
Bien sûr.
À quel point l'équipe de private equity que vous allez sélectionner, elle est impliquée dans les sociétés, elle arrive à les transformer et à faire de la consolidation sectorielle ou à continuer une croissance organique très forte. Ça, c'est le premier sujet dans la sélection. Et attention au miroir aux alouettes, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de fonds qui ont fait leur performance grâce à l'accroissement de la classe d'actifs en tant que telle, qui, elle, ne sera pas reproductible dans les prochaines années. Et le deuxième sujet, c'est la place de ce private equity dans votre allocation d'actifs. Et le gros sujet de ça, c'est, comme dans les énergies renouvelables, c'est le problème de l'intermittence des capitaux au travail. Quand vous êtes en bourse, vous êtes investi 365 jours sur 365. Dans le private equity, sur une période de 10 ans, sur un fonds donné, vous êtes investi plutôt à 40-50% maximum.
Et oui.
Donc un TRI qui serait à 12 sur le private equity, mais si vous êtes investi à 40-50%, vous allez faire 5-6% annualisé en réalité. Je préfère faire du 8% en bourse MSCI World, 11% sur les dernières années, et être 100% liquide.
Ouais, totalement.
Donc tout le sujet, c'est le cash management, ce qu'on appelle le cash drag, qui est le gros contributeur à la performance aussi en private equity. Donc c'est aussi l'organisation de l'approche de la classe d'actifs qui est aussi importante que la classe que le fonds sélectionné en lui-même ou les fonds sélectionnés.
Et si dans un portefeuille idéal, vous mettriez combien de private equity en termes de proportion? Dans une bonne allocation d'actifs.
Tout dépend en fait de vos besoins de liquidité. C'est toujours pareil. Nous, chez Ivesta, nos clients ont 40% de private equity, enfin de private market au sens large. Donc c'est du private equity, c'est la private dette des infra et l'immobilier un petit peu aussi.
Okay.
Mais donc ça, chez nous, c'est 40%. On se calque beaucoup sur les in-demand, qui sont les meilleurs investisseurs en ratio risque-rendement. Les in-demand, ce sont les fonds propres des universités américaines qui, sur les dernières décennies, sont les meilleurs performeurs ajustés du risque.
Et l'autre solution, enfin certains investisseurs y pensent aussi, c'est pourquoi ne pas investir dans des fonds de private equity ou des sociétés d'investissement très exposées au private equity qui sont cotées en bourse. On pense à, je sais pas, Wendel, Eurazeo ou alors des gros, des BlackRock, des Blackstone. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution judicieuse ou qu'il faut plutôt mettre la main sur l'actif en lui-même pour bénéficier du rendement maximal?
Les deux en général. Il y a pas de, vous jouez pas du tout la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui en plus en bourse avec les sujets qui le doute qu'il y a en ce moment dans cette période de transition sur notamment le SaaS, la private debt, vous avez des fonds qui sont des sociétés de gestion de private equity, donc des GP comme on dit, qui sont cotés en bourse comme Blackstone et des sociétés de gestion comme ça qui ont pris et qui sont aujourd'hui je crois à moins 30 voire moins 40% en bourse.
Bien sûr.
Pour certaines à cause du stress qu'il y a en ce moment sur la classe d'actifs. Donc là ça peut être effectivement un bon momentum pour rentrer sur ces sociétés de gestion, sur ces titres-là en bourse. Mais là vous jouez plus le recovery notamment par la retailisation du private equity et pas forcément la performance des fonds sous-jacents. Parce que aujourd'hui, ces acteurs sont devenus énormes. Je ne suis pas certain que ce soit ces acteurs qui produisent les meilleures performances dans les fonds sous-jacents. En revanche, ils auront une récurrence des revenus sur les 10 prochaines années. Ils ont une marque très très forte qui, pour le marché retail, permet d'aller se mettre un peu dans toutes les couches retail de tous les distributeurs dans le monde.
Ça peut être intéressant aussi. Pierre-Marie de Forville d'Ivesta, merci infiniment
d'avoir été
avec nous pour faire ce point très complet sur le marché du private equity.